Bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés pour cette nouvelle édition du Daily d'Opinion où je pose des questions en rapport à l'actualité avec Charles Gave. Première question, Charles Gave, la maire de Chicago hier disait qu'elle ne voulait plus être interviewée par des blancs. Est-ce qu'on assiste à une sorte d'institutionnalisation d'un racisme anti-blanc aux États-Unis?
Il y a une partie, c'est une très bonne question. Il y a une partie de la population qui est en train d'essayer de faire monter le racisme aux États-Unis. Et c'est un sujet assez grave. J'ai passablement écrit là-dessus, il y a déjà quelques mois, parce que je me faisais du souci. Et c'est un souci de nature presque intellectuelle. Je m'explique, c'est que notre civilisation, dans ses racines chrétiennes, a admis comme principe fondamental que chaque individu est irresponsable de lui-même. Vous savez, c'est la phrase que j'ai souvent employée, qui est la base du christianisme, c'est que Dieu ne s'est compté que jusqu'à un. La tribu, ça n'existe pas. Le message du Christ, s'il y en a un quand vous lisez les évangiles, il apparaît très clairement, à mon avis, c'est que Dieu a un projet pour vous personnellement, il veut que vous le trouviez, c'est ça le but de votre vie. Et s'il faut pour que vous arriviez à ce résultat, que vous vous éleviez contre la tribu, vous vous élevez contre la tribu. Donc, grosso modo, notre civilisation, ça a toujours été celle qui disait, en fin de parcours, il n'existe que la volonté individuelle, que la responsabilité individuelle. Vous ne pouvez pas dire, comme l'ont dit un certain nombre de gens pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai suivi les ordres de ma tribu. On a vu les résultats que ça a donné en Allemagne, ça a été pitoyable. Et on ne peut pas condamner quelqu'un au prétexte qu'il serait d'une autre tribu que la vôtre. Ça aussi, c'est complètement interdit. Ça s'appelle, en fait, le crime contre l'humanité, qui a été défini à Nuremberg. Donc, aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un effort pour faire regagner la prééminence de la tribu sur l'individu. C'est-à-dire que si vous êtes noir, vous devez penser comme un noir, et il y a un certain nombre de gens qui vous expliquent comment les noirs pensent, et vous n'avez pas le droit de pas penser comme eux. Si vous êtes juif, vous devez penser comme un juif. Si vous êtes arabe, vous devez penser comme un arabe. Et c'est un recul civilisationnel inimaginable.
C'est comme quand Joe Biden avait dit cet été, l'été dernier, que si un noir votait pour Donald Trump, il n'était pas vraiment
Il
noir.
n'est pas vraiment noir. Et c'était aussi une phrase qui était d'un racisme foudroyant. Et ce que je recommande aux gens qui pensent ce genre de pensée, c'est simplement de remplacer dans leur discours blanc par juif. Et vous retrouvez Mein Kampf. Donc, j'arrive pas très bien à comprendre comment on peut même défendre intellectuellement ce genre de position. C'est le premier, et c'est tout à l'honneur de la France, il y a eu toute une série de Noirs qui ont été dans la résistance dès les premiers jours, dans les années 40. Et le premier gouverneur des colonies qui se soit rallié à la France libre, c'était un noir qui était, je crois, guyanais ou guadeloupéen, je ne sais plus, qui s'appelait Félix Auboué et qui a été un remarquable. Je crois qu'il a été compagnon de la Libération parce que justement, il a choisi au bon moment, il a fait les bons choix. Quand j'étais enfant, le personnage numéro 2 de la République, c'était le président du Sénat. Le
Gaston
président
Monnerville.
Monnerville, qui était noir, vous avez eu Senghor, qui avait fait Normale Sup, et qui était à la fois noir et français et sénégalais, on peut être, il n'y avait aucun problème. Donc, si vous voulez, cette espèce de caractérisation des gens, et avec certains d'entre eux qui seraient coupables par essence, qui seraient coupables dans le. Et qui ne serait pas capable d'être de rémission, c'est-à-dire quand même il serait raciste, il pourraient un jour décider qu'ils ne le sont plus, mais ça fait rien. Si vous êtes blanc, vous pouvez pas ne pas être raciste, c'est-à-dire qu'on vous accuse d'un péché abominable. Je signale d'ailleurs que dans l'Église catholique, le racisme est un péché mortel. C'est-à-dire qu'il... Donc, c'est un péché absolument monstrueux, mais il n'y a pas de rémission à ce péché. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Donc, cette dame à Chicago, que je suis depuis plusieurs années, est quand même une femme qui maintenant gère la ville dans laquelle il y a le plus de crimes aux États-Unis, le plus de meurtres, le plus d'attentats, le plus de... Et il me semble que son rôle principal, ce serait d'assurer la paix civile parmi ses concitoyens. Pas du tout, elle essaye de mettre de l'essence sur le feu. Et je trouve ça extraordinairement inquiétant. Je ne crois pas que ça puisse avoir une issue heureuse, quoi.
Je pense pas non plus. Ce mouvement-là... De racialisme de gauche, on pourrait appeler ça comme ça, on l'observait...
Le racialisme ne peut être ni de gauche ni de droite, il est juste stupide. C'est un drame de la bêtise. C'est pas un drame de l'intelligence, il y a des intellectuels qui se sont trompés parce qu'ils étaient trop intelligents. Là, c'est vraiment de la crétinerie.
Mais ce mouvement-là, on le voyait plus dans des cercles... intellectuels, universitaires, et aujourd'hui on voit que c'est de plus en plus présent dans une gauche institutionnelle, démocrate. Est-ce que ça va aller de mal en pis, vous pensez?
Je reviens à une idée que j'ai souvent développée, c'est qu'une nation c'est une volonté de vivre ensemble. Il me semble que ce que ces gens-là disent, c'est que la nation américaine n'existe pas. Il n'y a que des groupes qui sont en lutte les uns contre les autres, ce qui est la fondation même du tribalisme. Mmh. Vous n'êtes pas de ma tribu, donc vous êtes mon ennemi. Mais non, c'est pas vrai du tout. C'est une façon de penser qui est, comme je le dis, mais totalement stupide et totalement étrangère à notre civilisation.
Question suivante.
Mais c'est une question très grave que vous posez, parce qu'elle va au cœur de ce qui permet aux gens de vivre ensemble, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'affectio societatis, c'est-à-dire qu'on peut travailler les uns avec les autres parce qu'on se fait une certaine confiance entre nous. Mmh. Et on voit très bien que les sociétés qui ont une forte affectio societatis, comme les pays d'Europe du Nord, la Suède, la Norvège, etc., sont des sociétés qui fonctionnent harmonieusement parce que, comme la confiance règne, ben, on n'a pas besoin sans arrêt d'être sur ses gardes. Mais à partir du moment où vous avez... ce genre de raisonnement qui se met dans le système, il ne peut plus y avoir d'affection sociétatis, il ne peut plus y avoir de relation amicale entre des gens qui sont pas, qui seraient d'une autre race, qui est une invraisemblable stupidité, quoi.
Sujet suivant donc, Xavier Niel, dernièrement, s'est emparé de certaines presses régionales, par exemple France Antilles ou Nice Matin. Est-ce normal que quelqu'un, après tout, s'accapare le marché de l'info de cette manière-là?
C'est une question d'enfant de droit de propriété. Mm-hmm. Alors, la question que vous posez a deux autres questions. Est-ce que la presse, dans la mesure où c'est un outil d'influence, peut être acheté, vendu, comme s'il s'agissait d'un paquet de cacahuètes, quoi. Personnellement, dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est terriblement diffusée par le net, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Ça me gêne pas des masses. Mais par contre, la deuxième question que ça pose, c'est... Tous ces journaux sont subventionnés par l'État. Je crois que l'État donne quelque chose comme 500 millions par an au Monde, par exemple.
Oui, bah d'ailleurs, le Monde, dont Xavier Niel est actionnaire majoritaire.
Donc, Autant je ne vois aucune raison pour laquelle M. Xavier Niel ne devrait pas acheter Le Monde si ça lui chante. Et s'il en a les moyens, et voilà. Et si les journalistes ne sont pas d'accord, ben ils ont ce qu'on appelle une clause de conscience, ils peuvent s'en aller. Donc, par contre, je ne vois pas du tout pourquoi le payeur d'impôts français devrait subventionner M. Niel quand il prend une décision capitaliste d'acheter un journal qui probablement perd de l'argent. Ce qui m'amène à penser que il va rembourser au personnel politique et au dollar les 500 millions que lui coûte que l'État lui donne. C'est-à-dire que ce don de l'État n'est pas un don gratuit. Si on achète les journalistes du Monde pour 500 millions par an, c'est qu'ils doivent quand même rendre des services à l'État, parce qu'il ne faut, faut pas se faire d'illusions. Je crois que la France est le seul pays au monde où il y a un service au ministère tout proche dans le. À Matignon, chez le Premier ministre, et qui, dans le but, la fonction est de subventionner la presse. Eh bien, pour moi, la vraie question, c'est de quel droit les hommes politiques subventionnent-ils la presse? Si la presse ne réussit pas à vendre ses journaux, si elle perd de l'argent, eh bien, je vois pas pourquoi on les traite différemment d'un épicier. Quand un épicier ne réussit pas à vendre sa bouffe, il fait faillite, et puis il baisse son rideau, et c'est terminé. Donc cette façon qu'ont les journalistes de ne pas vendre et de se glorifier de ne pas vendre, et à cet effet, pour maintenir une espèce de diversité de la pensée, nous explique qu'il faut qu'on les subventionne pour dire des trucs que personne ne lit ni n'achète, ça me paraît contre tout, à la fois les lois morales, les lois économiques et la salubrité publique, quoi. C'est encore pire.
Surtout que tous les journaux de tous les bords ne sont pas subventionnés de la même manière. Le Figaro est pas mal subventionné, Le Monde en premier plan, Libération aussi, L'Humanité n'en parlons pas,
Celui qui touche le plus par numéro, c'est l'opinion.
Ah oui?
Oui, vous savez, c'est ce jeune homme qui a l'héritier d'une famille qui a fait beaucoup d'argent avec les journaux et qui maintenant fait des journaux avec de l'argent à la place. Il n'est pas très doué, mais enfin, ça, c'est pas très grave, ça, c'est.
Ouais. Mais du coup, par exemple, typiquement, Valeurs Actuelles ne reçoit pas un centime de l'État.
Et bien entendu, et comme de bien entendu, Valeurs Actuelles se vend plutôt bien.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire du coup, il est agonie d'insultes par les autres journaux journalistes.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui en France deux sortes de journalistes, hein, c'est ce que me disait un de mes amis journalistes, il y a les journalistes honnêtes et ceux qui ont un boulot, quoi. Et ceux qui ont un boulot, si vous voulez, c'est comme me disait ce même ami journaliste, vous les reconnaissez parce qu'ils ont une marque de collier autour du cou. Ils ont toujours des petites rougeurs ici, parce qu'on les tient toujours avec une laisse assez courte. Mais que ces gens-là, qui sont donc des gens qu'on a achetés, viennent me donner des leçons de morale, je trouve ça insupportable.
Ça, vous pensez du coup mécaniquement que le marché de la presse devrait être beaucoup plus libéral, ne devrait pas recevoir d'aide de l'État et devrait survivre simplement de ses propres ventes?
De ses propres ventes, de sa propre publicité, je ne vois pas du tout pourquoi on est. Vous remarquerez que les pays où la presse ne marche pas, c'est les pays où la presse est subventionnée. En Angleterre, par exemple, vous avez des journaux comme le Daily Telegraph ou le Spectator ou des choses comme ça, qui sont un magazine, un peu comme Valeurs Actuelles. Il n'y a pas une subvention. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup amusé il y a longtemps. Au début de l'euro, j'avais fait un article dans Le Figaro, qui à l'époque me prenait mes articles de temps en temps, et dans lequel je disais que l'euro était allait amener trop de maisons en Espagne, trop d'usines en Allemagne et trop de fonctionnaires en France. C'était une monstruosité économique, ça pouvait pas marcher. Bon, on passe Le Figaro. Et le journaliste qui prenait mes articles, Le Figaro, m'a signalé que le Premier ministre de l'époque avait téléphoné au Figaro en disant: vous ne prendrez plus un article de ce gars-là, jamais. Et le rédacteur en chef du Figaro avait dit: mais bien sûr, monsieur le Premier ministre. Et à l'époque, je vivais en Grande-Bretagne, et je m'étais dit: si le Premier ministre anglais avait téléphoné à un journaliste du Times, au rédacteur en chef du Times, en disant: vous ne prenez plus jamais un article de ce gars-là, Ça aurait fait la première page du Times le lendemain matin, et le Premier ministre était démissionnaire le lendemain après-midi. Donc, il ne faut pas s'imaginer que ces subventions n'entraînent pas un asservissement du journaliste. Mmh. Celui qui paye commande. C'est une des plus vieilles lois de la nature humaine. C'est ma chère mère, quand j'étais jeune, je gueulais parce que j'avais pas assez de... À l'époque, on appelait ça ma semaine, si vous voulez, pour acheter un coca de temps en temps. Et elle m'avait dit, écoute, j'avais dit, je gueulais, elle m'avait dit, mais écoute, quand tu gagneras ton fric, tu auras ce que tu voudras. Mais pour l'instant, c'est moi qui décide. Hein. Et donc, c'est celui qui paye commande. Et tout ce que les Français se posent une seule question, c'est qui paye pour la survie de ces journalistes que personne ne lit ? C'est leurs impôts.
Oui, absolument. Que par ailleurs, un impôt auquel ils n'ont pas librement consenti.
Impôt, on leur a pas demandé leur avis. Hein.
Ça encore, ça pourrait s'entendre si on choisissait de financer par l'impôt tel ou tel journal, magazine. À la limite, ça pourrait s'entendre.
Ça pourrait s'entendre, sauf que ne devraient payer l'impôt que ceux qui sont d'accord. Mmh, et ceux oui. qui ne sont pas d'accord ne le payent pas. Et ce qui s'appelle simplement le tirage du journal. Si vous payez le journal quand vous l'achetez, bah, vous avez besoin de personne. Hein, c'est, Donc je ne vois pas pourquoi l'État devrait subventionner un truc que les gens n'achètent pas.
Oui.
Librement.
À Budapest, il y a un vieux bâtiment, l'écurie royale en l'occurrence, qui avait été originellement bâti à la fin du 19e siècle, détruit durant l'ère communiste, qui a été reconstruit à l'identique. Est-ce que cela montre de la part du pays, de la Hongrie, une volonté de perpétuer la civilisation européenne que nous n'avons plus, nous, forcément, dans les nations d'Europe occidentale ?
Alors, il faut savoir que des pays comme la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, ont vu passer pas mal de monde militairement depuis un siècle. Hein. Et que, par exemple, les Allemands avaient quasiment rasé Varsovie. Vous savez qu'à un moment, on disait qu'ils voulaient détruire Paris, mais ils ont détruit Varsovie, qui était une très vieille capitale. Et que la première chose qu'ont fait les Polonais, pendant l'ère communiste d'ailleurs, ça a été de rebâtir Varsovie à l'identique. Donc, pour ces pays-là, qui m'intéressent beaucoup intellectuellement, vous avez deux choses. Vous avez la souveraineté nationale, et vous avez une deuxième chose dont on parle très peu en France, qui est l'identité nationale. Et l'identité nationale, c'est quelque chose que vous ancrez dans le passé. Si je me souviens bien, l'empereur d'Autriche était roi de Hongrie. Mmh. Oui, et donc ouais. C'est pour ça que c'était les écuries royales et pas les écuries impériales. Ouais. Et ils sont donc ancrés dans leur identité, dans l'histoire. Et tous ces peuples disent, on a allié une partie de notre souveraineté dans l'Europe, mais en aucun cas on alliera notre identité. Et cette question d'identité, les Français étaient très sensibles à leur identité, on leur en a fait perdre conscience dans les 50 dernières années avec l'écroulement de l'éducation nationale, l'enseignement de l'histoire. Et ça me paraît une notion très forte, parce que c'est dans cette identité qu'on peut, dans les périodes de crise, se rassembler. C'est-à-dire, vous savez qu'à la fin du 19e, il y avait eu une grosse bagarre entre la partie catholique de la France et la partie laïque de la France, et qu'on avait viré des ordres religieux, le petit père Combes, enfin, 1905. Il n'empêche qu'en de 1914 à 1918, pendant la guerre, il y a eu l'identité nationale qui s'est recréée, et tout le monde est allé au front sans bargouiner. Hein. Les deux, ils sont battus aussi bien les uns que les autres. Personne ne peut dire qu'une partie s'est mieux battue que l'autre. Donc, l'identité, c'est tout ce qui vous reste quand vous êtes en danger mortel, pour vous rassembler. Et donc, ce que fait le Premier ministre hongrois, c'est de bâtir de bâtir des structures pour qu'il soit certain que l'identité hongroise lui survivra. Alors que très curieusement, nos gouvernements, et en particulier le gouvernement actuel, n'ont qu'une idée, c'est de détruire l'identité française. Ils vous expliquent que l'identité française, ça n'existe pas. Et il me semble difficile de faire coexister dans une même alliance des gens qui sont décidés à ne jamais laisser perdre encore une fois leur identité, parce qu'ils l'ont perdue de 45 à 90, et ils s'en souviennent amèrement, et des gens qui n'ont qu'une idée, c'est d'expliquer à leurs concitoyens que l'identité nationale, ça n'existe pas. C'est une folie. Et ça empêche la démocratie, parce que, disait Jean-Paul II, c'est qu'une démocratie ne peut exister que dans une nation, parce que dans une nation, vous acceptez de perdre aux élections. Donc la partie qui a perdu accepte, reconnaît la victoire de l'autre, et on peut repartir vers une nouvelle bagarre là, pour les élections d'après. Si vous n'avez pas cette conscience de l'identité, vous n'acceptez pas le résultat de votre défaite. Vous dites, j'ai été trahi, c'est pas... Donc... Et l'une des nouveautés de la gauche, c'est qu'elle n'accepte pas la défaite électorale.
Effectivement, oui. C'est insupportable.
Ils n'acceptent pas, et ça, c'est une nouveauté aussi, parce que la gauche, autrefois, elle tirait sa légitimité du fait qu'elle était devenue démocratique et que donc elle acceptait la défaite. Or, par exemple, les communistes n'ont jamais bâti leur légitimité sur des résultats électoraux. À ma connaissance, il n'y a jamais un gouvernement qui soit arrivé ou resté au pouvoir dans un pays sous un régime, avec un régime communiste. C'est-à-dire que le communisme est toujours arrivé par la violence et par l'oppression de la majorité par une minorité. Quoi. C'est...
Mmh. Et ça n'a jamais été un libre choix de...
Ça n'a jamais été un libre choix de devenir communiste et de le rester.
Mmh. Oui, encore moins de le rester. Oui.
Encore moins de le rester. Alors le rester, il n'y en a quasiment pas. Quoi. Si ce n'est quand il y avait des camps de concentration.
Mais sachant que ça, c'est en l'occurrence, cette reconstruction, ce n'est pas une initiative privée, c'est une initiative d'État. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ?
Eh bien, vous savez, le patriotisme, c'est d'aimer son pays, le nationalisme, c'est de détester les autres. Mmh. Moi, je considère que c'est une forme de patriotisme, et je considère que ça me rappelle, vous savez, le procès de Jeanne d'Arc, je ne sais pas si vous avez lu le texte du procès de Jeanne d'Arc.
Non, je n'ai pas lu.
Ben vous devriez, parce que c'était remarquable, c'était brillant, c'était incroyablement intelligent. Et à un moment, je crois que c'était l'évêque Conchon, lui pose à Jeanne d'Arc, alors d'après vous, d'après vos anges, d'après ce que vous pensez de Dieu, Dieu préfère les Anglais les Français aux Anglais. Ce qui était une question. Et Jeanne d'Arc répond, il préfère les Anglais en Angleterre et les Français en France. C'est une réponse magnifique.
Ouais.
C'est-à-dire que Dieu veut la diversité, mais il veut pas que les Anglais écrasent les Français, ou les Français écrasent les Irlandais, ou les Anglais écrasent les Irlandais. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a la condamnation de l'absence d'identité, et c'est la tour de Babel. Quand les hommes décident d'essayer de devenir Dieu, ils essayent de créer une espèce de tour. Et ça rate, parce qu'ils ne se comprennent plus. Et donc, je crois que la réponse à votre question, c'est que Dieu est pour le patriotisme et contre le nationalisme.
Mais alors, cette fois-ci, encore sur ce sujet, un petit peu, c'est un peu provocateur, parce que, évidemment, je ne me ferai jamais l'avocat du communisme. Mais est-ce que, d'une certaine manière, le communisme dans ces pays d'Europe de l'Est, ne les a pas protégés d'un déracinement total et d'une inconscience de ce qu'ils sont, qui parfois a pu, je pense, avoir lieu dans des pays d'Europe occidentale ces 40 dernières années.
C'est-à-dire que ces pays ont été soumis à une des dictatures les plus sanglantes de l'histoire. C'était un vrai totalitarisme. Les régimes autoritaires, ils en ont connu tant et plus dans ces pays-là, parce que c'était rarement des pays démocratiques. Et dans un régime autoritaire, on vous fout bien la paix quand vous êtes chez vous, quand vous vous occupez de vos enfants, etc. Mais on va pas, mais il faut pas que vous embêtiez l'État, quoi. Enfin, il faut pas vous révolter contre le pouvoir politique. qui n'est pas légitime, enfin qui est là et qui a la plus grosse massue. Donc on dit, vous restez bien tranquille, on vous fout la paix, vous faites ce que vous voulez. Bon. Et ce faisant, quand ils ont. C'est la seule façon de survivre en tant que peuple, c'était, de façon très simple, de conserver leur identité. Et un pays comme la Pologne s'est défini pendant des siècles par son église, l'église catholique. Donc l'église catholique a été le roc sur lequel l'identité polonaise a été maintenue contre le régime communiste. Et c'était. D'une certaine façon, ça existait aussi. Il y avait je ne sais plus comment il s'appelait, le cardinal de. Cardinal Prima je ne sais plus de son nom, mais je crois qu'en Hongrie, il a été en tôle en résidence surveillée pendant 30 ans, quoi. Il n'a jamais pu sortir de chez lui, mais tout le monde savait qu'il était là. Et donc, le propre du totalitarisme, c'est de ne pas accepter une structure de pouvoir différente, concurrente. Et l'Église, pendant tous ces 40 ans, 50 ans, a été une structure de pouvoir concurrente qui ne réussissait pas à battre. Parce qu'à ce moment-là, ça aurait été quasiment la révolution immédiatement. Donc, l'essentiel, c'est de conserver une structure de pouvoir contre la majorité qui peut s'y opposer. Donc, je reviens à votre question. Qu'est-ce qui nous est arrivé chez nous? Ben, si je devais être très sévère, je dirais que nos églises nous ont trahis. Elles ont accepté le diktat de la dictature molle de Tocqueville. Elles ont abandonné la résistance. Elles ont dit, je suis. Donc, pour moi, la vraie trahison depuis 50 ans, c'est la trahison de l'Église catholique de France. C'est elle qui est derrière. On l'a très bien vu pendant la crise du Covid, que les prêtres n'aient pas ouvert leurs églises, quoi que dise le gouvernement, en disant j'en ai rien à foutre de votre. Ce qui compte, c'est le salut des âmes. C'est inimaginable de lâcheté. Donc je crois que. Que disait encore une fois Jean-Paul II, il disait, il faudra 5 générations pour remonter l'Église de France.
Peut-être même plus. Sujet suivant, Macron, le président Emmanuel Macron, a tweeté hier ou avant-hier, petite phrase très simple, notre objectif, 2 points, faire plus pour l'Afrique. Est-ce qu'il sait encore quel pays il gouverne?
Ben, je crois que je vous avoir dit ici souvent, ce qui m'a toujours stupéfait avec Macron, c'est qu'il n'aime ni la France, ni son peuple, ni son histoire. Ça doit être la première fois dans l'histoire de France qu'on a un président de la République qui n'aime pas la France. Et donc, ce pauvre garçon qui n'a ni culture, ni caractère, ni, j'ai envie de dire intelligence, en tout cas du réel, c'est pas parce que vous avez fait de bonnes études que vous êtes intelligent, ça je l'ai dit 25 fois. Il n'y a aucun rapport entre l'intelligence et les études. Les études, c'est simplement montrer que vous avez une mémoire de cheval et aucun caractère, quoi. Et vous êtes prêt à avaler n'importe quelle crétinerie que vous dit votre professeur pour le répéter et passer les examens. Donc, pour moi, c'est un non-être. C'est-à-dire, c'est une espèce d'ectoplasme qui flotte au vent des idées. C'est une drôle de créature, mais qui est parfaitement adaptée au temps dans lequel on est. C'est-à-dire un temps qui n'a pas de but. C'est-à-dire. Une espèce de maximisation des foucades que l'on a au moment où on les a, quoi. Alors je sais que par exemple, il est en train de. signer toute une série de textes pour faciliter au niveau de l'Europe l'immigration africaine en Europe. Il est en train, donc, les Français sont en train de dire on veut moins d'immigration, et lui, il est en train d'agir en Europe, sournoisement d'ailleurs, les décrets ont été publiés, mais personne ne le sait, pour que on ait de plus en plus, pour que l'immigration soit de plus en plus facile en Europe et de moins en moins contrôlée pour toute l'Europe. Donc c'est le gars. J'imagine qu'il s'imagine étant le proconsul européen d'un gouvernement mondial, c'est ça son objectif. Mais
Ça doit pas être loin, ouais.
il n'est pas le président de la France.
Tout cas, il n'agit pas comme tel.
Non, mais non, pour lui, je crois que fondamentalement, si vous me demandez mon avis, je crois qu'il pense que la France n'existe pas, que ça n'est pas une réalité,
C'est pas un concept.
C'est un concept que quelques vieux crétins en charentaise, qui ont risqué leur vie, je ne sais pas combien de fois pour ce pays, continuent à porter, mais c'est à peu près aussi idiot que, je ne sais pas, la peine de mort, ou c'est des trucs qui ont vocation à disparaître. Donc pour lui, je crois qu'il s'inscrit délibérément dans une philosophie de la France va disparaître. Ça n'est pas quelque chose de qui
C'est pas quelque chose qui le choque,
c'est
qui le
quelque
touche.
chose qui lui paraît parfaitement normal. Donc, c'est difficile de se mettre dans la peau d'un homme qui n'a pas de conviction, quoi. Ça me paraît. Ce qui pose une question qui, pour moi, est assez grave, c'est. Comment se fait-il que notre système électoral laisse passer quelqu'un qui a pour vocation, enfin pour ambition, pardon, de détruire la France? C'est un grand mystère. Ça prouve qu'il y a quelque chose de complètement pourri dans la façon dont nous sélectionnons nos élites. Il s'est passé un phénomène à l'époque de Macron. Ça faisait un petit moment qu'on se doutait que les cartes étaient biaisées. Mais là, quand je l'ai vu arriver avec son discours, je me suis dit, quand au moment de son intronisation, il fait jouer l'hymne à la joie, qui est l'hymne européen, je crois que ça va être le premier président de la République qui ne faisait pas jouer au moins un chant français, quoi. J'aime bien l'hymne à la joie, mais
C'est ce que ça signifie derrière qui peut être un petit peu inquiétant.
C'est-à-dire, cet homme, on sent que s'il fallait signer des documents pour supprimer la France, il le ferait avec beaucoup de célérité, parce que ça n'est pas son sujet.
Alors, au sujet de fin, à chaque fois, à la fin, on parle un petit peu de Covid, de ce genre de choses. Fin avril, beaucoup d'experts avaient promis quasiment l'apocalypse, une augmentation du nombre de contaminations, du nombre de morts par jour, d'hospitalisations, de gens en réanimation aussi, et critiquaient énormément la décision du gouvernement de rouvrir progressivement, là, pendant ce mois de mai, en l'occurrence hier, les terrasses, alors on parle, les terrasses de café ont rouvert le 19 mai. Beaucoup d'experts donc avaient critiqué cela en disant qu'on allait rouvrir au pire moment. Finalement, de la fin avril à hier, on passe de 35 000 contaminations par jour à 12 000, de 300 morts par jour à 160, de 32 000 personnes hospitalisées à 22 000, de 6 000 personnes en réanimation à près de 4 000 aujourd'hui. Est-ce que ça ne remet pas énormément en cause la parole d'expert sur ce sujet?
Vous savez, quand la démocratie commence à crever, ce qui est notre cas depuis un petit moment en France, ce qui se passe, c'est que les incompétents que nous avons élus créent des experts pour justifier leurs bêtises. Répondant à votre question, l'expert est une création gouvernementale pour justifier les imbécilités des gouvernements. Donc, si vous acceptez sa définition de l'expert, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ne seront nommés comme experts, qui auront droit à la parole et donc seront repris par la presse subventionnée dont on parlait tout à l'heure, uniquement ceux qui vont défendre les positions du gouvernement, soi-disant scientifiquement. Je ne sais pas si vous savez, mais peut-être, je suis sûr que vous le savez, mais dans les années 1950-1960, il y avait eu d'immenses avancées dans la biologie scientifique qui avaient été faites, et puis il y avait un crétin de service stalinien communiste qui s'appelait Lysenko, qui avait décidé que la biologie avec expérimentale, scientifique, était contraire au marxisme et donc ne pouvait pas exister. Et il avait inventé une biologie marxiste. Au moyennant quoi, tous les récoltes étaient lamentables parce que les semences n'étaient pas les bonnes. Enfin bref, c'était une pensée magique qu'on substituait à la pensée scientifique. Et M. Lysenko était un expert. Et je vous conseille de lire les articles que l'Humanité lui consacrait à l'époque, en France. C'était tout à fait remarquable. Lysenko n'avait pas de mots trop durs pour tous les grands experts biologiques. Donc aujourd'hui, vous retrouvez des médecins, vous retrouvez des experts. Et ces hommes qu'on nous présente comme experts, qui sont dans ces comités, Théodule, ils ont une caractéristique tout à fait commune et éminente, c'est que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas fait de recherche. Ce sont des experts d'administration. Monsieur Salomon, le ministre de la Santé aujourd'hui, sont des docteurs qui n'ont pas vu un médecin, un malade depuis qu'ils sont sortis de la fac quasiment. Ils ont fait que grenouiller dans les couloirs. C'est ce que j'appelle des vipères de moquette. Vous savez, ça fait des grandes carrières, mais il me semble que des gens comme le professeur Perron, le professeur Raoult, l'ancien prix de Nobel de médecine en France, qui avait pris sa retraite, on avait mis la retraite à 60 ans, ont peut-être plus de capacité à dire la vérité, mais curieusement, ils ne sont jamais choisis pour ces experts. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit une ou deux fois ici aussi, c'est qu'un système politique, il y a trois étages, en bas vous avez le peuple, au milieu vous avez ceux qui gèrent l'État.
L'administration,
c'est une machine d'abord qui est nécessaire, ensuite qui est extraordinairement complexe, donc il faut des gens qui sachent faire tourner l'État, qui puissent... Et en haut, vous avez le corps politique qui est élu, qui dans le fond répond aux besoins de ceux qui sont tout en bas, et dont le rôle est d'être foudroyé s'ils se trompent. Pas la fois d'après, ils ne sont pas élus, ou on les fusille si ça ne va pas, etc. Or, ce qui s'est passé depuis Giscard en France, c'est que le corps administratif, en contrôlant, a décidé de contrôler le corps politique. Et nous n'avons plus de politique en France. Et donc, on ne peut plus foudroyer nos gars. Puisque quoi qu'il se passe, on revoit toujours Fabius, on voit toujours Juppé, ils sont gâteux, ils continuent, ça fait 60 ans qu'on les voit, on explique qu'ils ont fait les meilleures études, mais on s'en fout. C'est pas pour ça qu'ils sont compétents, c'est ce que je dis toujours. Gamelin était sorti premier de Saint-Cyr et Lebrun, le président de la République, il est sorti premier de Polytechnique, ça n'empêche qu'on a pris la plus grande branlée dans notre histoire avec ces deux génies. Donc, encore une fois, le politique, c'est celui qui a une espèce de longueur d'onde qui correspond au moment où il est élu à un petit peu à la longueur d'onde du peuple en dessous et qui permet de court-circuiter ce corps administratif qui n'a qu'une idée, c'est de ne jamais rien changer. Et comme il n'y a plus, comme on peut plus, pour éviter d'être flingué quand même, ils nomment des experts et qui viennent d'où ? Du corps administratif. Vous voyez, donc c'est une espèce de défense. C'est comme si les Allemands avaient gagné la guerre Et que j'imagine que à ce moment-là, ben, on aurait nommé des commissions au Parlement français, s'il y en avait eu à l'époque, ben, on aurait nommé des commissions pour justifier la ligne Maginot, quoi. Le rôle de ces experts, c'est d'empêcher que les administratifs qui sont devenus politiques ne soient virés. Leur seul rôle, c'est celui-là. Ils n'ont pas comme rôle de dire la vérité. Donc, ils vont toujours vous annoncer les catastrophes. Comme ça, eux et leurs commettants, et s'il n'y a pas de catastrophe, ils diront, voyez, on a pris les bonnes mesures, parce que si ça a baissé, c'est parce qu'on a pris les bonnes mesures. Regardez, sans ça n'aurait pas baissé. Mais je vous signale, je reviens là-dessus encore une fois, c'est qu'en Suède, il n'y a pas eu toutes ces mesures.
Effectivement.
Et ils ont moins de morts pour 10 000 habitants que la France.
Avec un degré pourtant d'urbanisation
Tout à fait similaire,
tout à
plus
fait
élevé.
similaire, même un poil plus élevé.
Parce que la Suède, c'est un immense pays, mais dans le fond, il n'y a que 3 villes, quoi. C'est à peu près, quoi. Vous avez Göteborg, Stockholm, et puis Malmö, là-bas dans le sud, et puis voilà, quoi. C'est à peu près ça. Puis après ça, il y a des petites bourgades, mais enfin. Donc, c'est assez fatigant. Et je vais terminer là-dessus, mais le grand philosophe de la chrétienté, c'était le frère évangélique, c'était saint Thomas d'Aquin, et qui disait que dans un débat, le seul argument irrecevable, tout le temps, c'était l'argument d'autorité. C'est-à-dire le gars qui vous dit, j'ai étudié la médecine toute ma vie, je sais ce qu'il faut faire. Et puis vous avez qu'à vous fermer parce que vous êtes. Mais le paysan qui a 25 vaches, il sait très bien quand ses vaches sont malades. Et donc il peut voir comment ça marche, une épidémie, enfin bref. Donc l'argument d'autorité, qui est celui dont se réclament les experts, était refusé par principe par Thomas d'Aquin dans toutes les discussions entre citoyens. Donc faire appel aux experts, c'est avouer que je suis incompétent. Et donc, pourquoi ai-je été élu si je suis incompétent? Si je ne peux pas prendre des décisions sans avoir tous les éléments. Ouais, ce que je veux dire, c'est que j'élis un gars parce que je le crois capable. Quand vous êtes chef d'entreprise, il y a des moments où vous prenez une décision et vous vous dites, bah, putain, j'espère que ça va marcher parce que j'en suis pas sûr du tout, hein, les mecs. Mais c'est l'idée, si vous voulez, qu'on ne peut prendre des décisions qu'en sachant, est une imbécilité
Ouais,
logique.
on n'a jamais toutes les informations qu'il faut.
Ou on les a trop tard, ou on n'a pas les bonnes. Donc, la notion d'expert, c'est si je savais plus, je prendrais une meilleure décision, ce qui est faux. Napoléon, il n'avait pas besoin d'expert autour de lui pour écrire le code civil.
Bon, bah, je crois qu'on a terminé cette émission.
Ben, ça m'a fait
Encore une fois, sur
plaisir.
une note positive sur le Covid. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est
Même
très
si on a dépassé
important.
100 000, on ne sait pas pourquoi, mais c'est sûrement très important.
Voilà, de toute façon, c'est toujours un bon chiffre, hein. Liker la vidéo, enfin mettre un pouce bleu, partager, commenter, etc. Et on vous
Et
dit
ne
à
nous
la
croyez
semaine
pas sur
prochaine.
parole.
Ne nous croyez pas sur
C'est
parole.
pas parce que j'ai travaillé toute ma vie dans l'économie que j'y connais quelque chose.
Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.